Nous parlions du cadre protecteur de la musique. Nous sommes dans la section Les caractéristiques du chant nouveau. Et nous parlions des composants de la musique. Et nous disions qu'il y avait le troisième composant de la musique qui était le rythme. On reconnaît que le rythme se réfère au monde du physique et parle à notre corps, qui n'est certainement pas mauvais, qui est naturel et c'est bon. Le rythme est comme le battement de cœur de la musique. Tout comme sans cœur, nous ne pourrions vivre, la musique sans rythme est morte. Il n'y aurait tout simplement pas de musique. Aussi, le rythme doit être largement inaperçu, comme notre battement de cœur. Le rythme est le servant à la fois de l'harmonie et de la mélodie. Il ne peut prendre le dessus de la mélodie sans faire du tort à la musique et à ceux qui l'entendent. Parce que nous, quand on marche, nous ne marchons pas en étant conscients nécessairement de notre battement de cœur. On marche d'une manière très smooth en général. Et la musique doit marcher, doit fonctionner smooth dans ce sens. Aussi, le rythme doit être essentiellement régulier, encore comme celui de notre battement de cœur. David Thame dit, par exemple, « L'homme est, bien sûr, essentiellement un être rythmique. La respiration, le battement de cœur, la parole, la marche, etc. Même les hémisphères cérébrales sont dans un état constant d'activité rythmique. Je ne vous apprendrai rien de nouveau en vous disant que notre cœur bat selon un rythme régulier, compatible à celui de 3 ou 4 temps, avec l'emphase primaire sur le premier temps. En fait, tout rythme normal de musique est soit de 3 ou 4 temps avec une combinaison des deux, avec l'emphase primaire aussi sur le premier temps. On compte le temps ainsi en musique. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, etc. D'ailleurs, si vous prendriez votre livre de cantiques, vous verrez qu'en général, tous les cantiques suivent cette formule. L'emphase forte est sur la première note dans une mesure. Maintenant, je vais jouer plusieurs extraits et je vais compter la mesure durant certains extraits, durant quelques temps que je vais vous faire jouer ces extraits. Et vous allez voir comment le rythme normal est 1, 2, 3, 4. 3.
1, 2, 3.
J'espère que vous avez réussi à suivre. La syncope, maintenant, consiste à simplement mettre l'emphase d'une mesure là où l'on ne s'y attendrait pas. Elle ajoute un élément de surprise agréable dans la musique. La syncope se retrouve fréquemment dans la musique classique, mais elle est utilisée comme du poivre, une petite touche par-ci par-là, ce qui fait que l'on apprécie sans vraiment la remarquer. Dans le classique, la syncope se fait en jouant la note qui tombe sur le deuxième temps plus longue que la note qui tombe sur le premier temps. L'emphase ne se porte plus ainsi sur le premier temps, mais plutôt sur le deuxième. Mais le cœur ne peut pas être soumis régulièrement à un rythme contraire à son battement normal. La syncope n'est bonne que dans la mesure que le morceau de musique dans lequel il est joué est en général régulier, surtout quand il s'agit d'un long morceau de musique. On peut avoir un petit morceau ou un petit chant qui est écrit uniquement en syncope, mais encore là, il ne faudrait pas que ce genre de petit chant soit la seule chose que vous jouez ou que vous écoutiez. Si notre cœur est soumis à trop d'irrégularité rythmique, les conséquences sur tous les plans de notre être ne sont pas longs à se révéler. Nous allons parler plus longuement de ce qui se passe avec un rythme qui ne suit pas régulièrement le modèle d'un temps régulier. Quatrièmement, toute bonne musique qui est bien écrite et qui va résister à l'épreuve du temps aura une bonne résolution. Une résolution est la bonne utilisation des accords qui se résolvent. Un chant qui te laisse suspendu dans l'air en attendant une autre note n'est pas bien écrite. Il lui manque une bonne résolution. Toute bonne musique a une bonne résolution. La résolution vous indique simplement « Ah, le morceau est fini. » Il ne vous laisse pas avec une répétition constante dans votre tête du dernier bout de phrase que les musiciens ont répété avant de baisser le volume. Parce que ça, c'est ce que font beaucoup de musiciens aujourd'hui, c'est qu'ils vont répéter 3, 4 fois, 5, même jusqu'à 6 fois une petite phrase à la fin, et ils vont finir la musique en baissant le volume. Et ça ne vous laisse pas vous reposer sur la dernière note. Alors voici un exemple d'une bonne résolution. Moi, je la trouve particulièrement spéciale. Elle a été composée par Vivaldi. Thank you. Oui, je pense que ça valait bien la peine que ça soit applaudi. Ce genre de musique ne vous laisse pas hésiter de dire que la musique, ce morceau est fini. C'est-à-dire qu'il y a une bonne résolution quand vous êtes certain que c'est fini. Finalement, l'interprétation d'un morceau de musique doit être sobre. La manière qui est véhiculée d'un message change le sens d'un message. Vous allez me dire, répète ça. Oui, la manière qui est véhiculée un message change le sens du message. Pourquoi pensez-vous que les hommes d'affaires s'habillent toujours très bien? Parce qu'autrement, ils feraient faillite. Si un vendeur d'assurance que vous ne connaissez pas viendrait à vous en short et en t-shirt pour vous vendre un gros contrat, vous ne le prendriez pas au sérieux. Pourtant, s'il viendrait à vous avec les mêmes paroles, mais en habit, vous le respecterez et vous serez prêt de prendre au sérieux son message. Ou encore, si vous receviez un papier brouillon écrit à la main d'une compagnie vous indiquant que vous avez gagné 1 million, vous croirez qu'on se moque de vous. Mais si vous receviez une belle lettre bien présentée avec le logo de la compagnie et toute bien dactylographiée et signée, vous croirez que probablement, bah oui, le message est vrai. Quoique quand vous gagnez 1 million, il faut bien être hésitant. Mais quand même, vous portez plus attention. Dans un sens, c'est vrai que le sens d'un n'importe quel message change dépendamment de sa présentation. Ou peut-être devrais-je dire, elle ne la change pas nécessairement, mais elle y donne du poids ou en enlève. Elle la renforce ou l'affaiblit, dépendamment si la manière qu'on la présente reflète bien le message. Et nous, puisque nous représentons Christ, soyons sobres dans notre manière de chanter, en chantant juste du mieux qu'on peut sur les notes et non en s'amusant de glisser sur les tons. Ça, on va en parler un peu plus profondément dans notre prochaine section. Alors, que celui qui porte le message reflète non seulement le message, mais celui qui lui a donné le message, c'est-à-dire Dieu. Voici un exemple d'un solo. Je m'excuse, c'est en anglais, mais je pense que ça va passer pareil. Qui est bien chanté. Vous remarquerez comment c'est très bien prononcé, comment il tient bien la note, il ne s'amuse pas à la baisser à moitié chantée. Et c'est encore fait par Musical Ministries, ça, c'est une cantate, The Centurion. Et il chante A Heart of Stone. Nous arrivons à la dernière section de notre étude. J'aimerais juste introduire par une question. Est-on prêt à mettre de côté ce qui est mal, de s'abstenir du mauvais, de ne retenir que ce qui est bon? C'est une question assez profonde d'implication. Aussi, tous doivent le répondre personnellement. Aussi, est-on prêt à examiner l'évidence de remettre en question notre musique personnelle? C'est une chose de vouloir s'abstenir de ce que l'on sait qui est mal. C'en est une autre que de vouloir être mis au courant de ce qui est mal. Peut-être certains sont ignorants sur certaines choses, et je peux comprendre, mais ils veulent le rester. Mais j'ai confiance que ce n'est pas la situation de mon auditoire. Premièrement, comment la Bible décrit-elle le chant des insensés? Ce terme est emprunté du livre de l'Ecclésiaste 7.5. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Et ce terme est utilisé dans cet ouvrage comme un terme générique pour la musique du monde, que ce soit instrumentale ou chantée. Donc je n'ai pas fait une exégèse d'Ecclésiaste 7.5, mais c'est juste que j'ai pris le terme « chant des insensés » pour vouloir dire « musique du monde ». Alors le chant des insensés, comment est-il décrit dans la parole? En premier lieu, la Bible le présente en général comme joyeux. Job 21.12, par exemple, dit au sujet des méchants, « Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. » Il y a maintes autres versets qui l'indiquent aussi. Exemple, Ésaïe 24, 8 et 9, Lamentations 5, 14. Et à ce sujet-là, on peut donc conclure qu'on ne peut pas établir comme critère quand une musique est joyeuse et entraînante, puisque la musique du monde est entraînante et joyeuse aussi. Donc, on ne peut pas se dire si une musique est belle, qu'elle est bonne. On peut dire qu'elle est belle et joyeuse et qu'elle est entraînante. Ce n'est pas là le critère de la musique. Comme j'ai dit, ce ne veut pas dire que la bonne musique, le chant nouveau, ne doit pas être joyeux. Au contraire, il doit être joyeux. La musique du monde peut être joyeuse, ça ne doit pas nous empêcher, nous, d'être joyeux aussi. Sauf que notre joie est bien différente. Aussi, la Bible annonce un jugement à cette musique. Et de cela, nous en avions déjà pas mal parlé dans la première section. Je vais juste citer quelques références que j'ai déjà citées auparavant. Ésaïe 14, 11, Ézéchiel 26, 13, Amos 5, 23, Apocalypse 18, 22, etc. D'après la musique maintenant, premièrement, définissons le mot corruption. On parle de la corruption de la musique. Mais avant de voir la corruption de la musique, que veut dire corruption? Le dictionnaire Petit Robert utilise plusieurs termes pour décrire la corruption. Il dit altération du jugement, du goût, du langage, perversion, dérèglement. Et en fait, c'est exactement cela. C'est une altération, un dérèglement, une déviation du cadre naturel établi par Dieu. Alors, la corruption, c'est une déviation du cadre naturel établi par Dieu. Et on peut avoir la corruption au niveau sexuel, cela on le sait tous, c'est la déviation de l'utilisation normale du sexe dans le mariage. La corruption politique, c'est simplement la déviation des normes et de l'honnêteté qu'il devrait y avoir. Et il y a toutes sortes de corruptions, c'est simplement une déviation. Une déviation du plan de Dieu, de ce que Dieu a établi comme critère. Et c'est ça qui va nous introduire à la corruption dans la musique. La musique a des critères qui sont inclus en elle-même, comme nous les avons vus. Nous les avons peut-être pas tous vus, mais nous avons vu les majeurs. Mais nous allons voir comment certaines musiques vont être déviées par rapport à ces lois, ces règles musicales. Et il y a bien des musiques aujourd'hui qui sont corrompues, c'est-à-dire qu'elles sont en dehors du cadre naturel fixé par Dieu. Mais avant de regarder à la musique, réfléchissons un peu où en est notre société. J'aimerais juste prendre ce temps, faire une petite parenthèse pour sensibiliser mon auditoire à la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Notre société a un riche arrière-plan chrétien. Les valeurs judéo-chrétiennes ont bâti la culture nord-américaine. On a un riche arrière-plan chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe? À mesure que l'homme rejette la source de ses valeurs, c'est-à-dire la Bible, la sainte doctrine, les absolus de Dieu, et se tourne vers des fables de l'homme, le relativisme humain, cherchant la liberté en détruisant tout règlement, toute norme de conduite, ces mêmes valeurs sont en train de disparaître. La valeur de la famille, de l'autorité, du respect du prochain, de notre responsabilité envers Dieu, de notre soumission envers Dieu, parce que l'homme veut se faire son propre autorité, toutes ces valeurs sont en train de pourrir. Notre société retourne à la vulgarité, se vautre dans la barbarité, dans le paganisme, dans la débauche et la destruction de la culture. Toute culture qui rejette la parole de Dieu retourne tôt ou tard à la barbarité. Cela s'est vu depuis le début de l'histoire. L'Amérique du Nord et le monde occidental est vraiment comme Rome, par exemple, avec toute l'immoralité, le plaisir à regarder la violence dans les arènes, la soif du sang, l'apathie, le désintéressement au crime et au viol dans les rues. Et cela, c'est courant dans les grandes villes en Amérique du Nord. Une personne peut se faire violer devant toute une foule et ne vont pas réagir. Ils sont insensibles. Et on est insensible à des millions de bébés qui sont en train de mourir à tous les jours, qui n'ont même pas vu le jour, la lumière. Et on regarde des films de violence et de sang. C'est courant, toutes ces choses. Pourtant, on regarde dans l'histoire et on pense qu'on est mieux que les Romains, avec leurs orgies, leurs cirques et leurs gladiateurs et leur amour du sang versé. Mais réveillons-nous un peu et pleurons pour notre société. Ce n'est pas nouveau non plus que les générations chrétiennes ont tombé dans le monde et ont mis de côté la parole de Dieu pour s'éteindre sans laisser de marque. Ou la marque qu'ils avaient eue, elle est disparue. J'ai entendu à plusieurs reprises que l'Église la plus forte dans les premiers siècles après Jésus-Christ était en Afrique. Pourtant, on n'y penserait pas souvent, parce que maintenant, c'est nous qui les envoyons des missionnaires. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À mesure que le temps a passé, l'Église s'est mêlée au monde et a fini par s'éteindre. Par la suite, un paganisme total s'est installé. Des idoles, les fêtes barbares au son d'une musique diabolique. En Arabie, même chose. Vers le 6e siècle après Jésus-Christ, maintes églises étaient débutées en Arabie aussi. C'est à ce moment-là que Mohammed est apparu. Et au début, il cherchait la vérité. Mais en parcourant le pays et en visitant un peu les chrétiens, il a dit « Oh, il n'y a rien ici ». Il n'était pas impressionné par leur manque de consécration et à leur froideur quant à leur Dieu. Parce que quand on voit un chrétien qui ne marche pas, on ne veut pas devenir comme lui. Et Mohammed a dû en voir des chrétiens comme ça dans ce temps-là. En Chine, en Inde, en France, l'histoire s'est répétée. En Chine, à une période de l'histoire, il y avait de maintes églises, un réveil incroyable. Maintenant, c'est froid, c'est mort. En Inde, maintenant, où est-ce qu'il y a toutes sortes de religions, à un moment donné, l'Évangile y était répandu. Mais à mesure que les chrétiens leur feu est baissé complètement et les religions hindoues ont repris le dessus. En France, dans le temps, les huguenots, il y avait tout un réveil, mais peu à peu, la flamme de Christ a baissé. L'histoire se répète. Les générations de chrétiens se sont refroidies et se sont tournées vers le monde au lieu de garder un zèle et un témoignage pur, irréprochable et puissant pour Dieu. Alors l'histoire se répète en ce moment, ici en Amérique du Nord. Notre héritage judéo-chrétien est renié et les chrétiens sont attirés de plus en plus vers le monde, reniant la puissance de Dieu dans une communion étroite et profonde avec lui. Quelles ne sont pas les églises qui ont des problèmes avec leur jeunesse, qui ont des problèmes avec les membres qui veulent juste venir un dimanche matin et qui veulent faire leur propre vie? Bien sûr, vous allez me dire, c'est normal d'avoir des problèmes, mais est-ce normal de perdre la flamme et la prochaine génération va mourir. Ça, il faut le réaliser que nous sommes dans cette période où nous sommes en train de mourir à petit feu parce que nous laissons la société, le monde autour de nous, être imprégné dans l'Église. Alors, je voulais juste donner ce cours exposé sur la situation présente par rapport à l'histoire. Alors, choquons-nous devant ces faits et humilions-nous devant Dieu et réalisons que nous sommes vraiment dans une société qui n'est plus chrétienne, qui est complètement païen, qui est barbare et qui s'empire de jour en jour. Maintenant que cela est dit, revenons à la musique. Rappelons-nous que la décadence musicale a toujours suivi la décadence d'un peuple. Quand une société se rebelle contre Dieu et se vautre dans l'immoralité, sa musique le démontre, elle le reflète. D'ailleurs, en fait, c'est quand cette société se donne une musique qui est d'une nature rebelle aux lois de Dieu qu'elle va se plonger de plus en plus dans la rébellion contre Dieu et l'autorité. Parce que la musique est en même temps une influence et un thermomètre spirituel. Mais comment est-ce que l'on peut reconnaître une musique qui est corrompue? Ça, c'est une bonne question. Ce que nous allons faire maintenant est simplement de reprendre chaque caractéristique du chant nouveau, l'harmonie, la mélodie, le rythme, la résolution, l'interprétation, et démontrer comment on peut les dévier, ces règles-là, et avoir un effet corruptrice à cause de la définition de ces caractéristiques. La corruption de la mélodie. La corruption de la mélodie est simplement la déviation des principes qu'on a mentionnés dans notre section précédente. En général, la musique du Nouvel Âge est maître à ce niveau-là. L'effet de cette corruption de la mélodie est surtout une corruption de l'esprit. L'effet, ça affecte l'esprit. D'ailleurs, c'est en plein le but de ceux qui sont dans le Nouvel Âge. Quoique eux, ils ne veulent pas corrompre l'esprit, mais en pratique, c'est ce qu'ils font. Parce que leur sorte de spiritualité est complètement dans l'erreur, parce qu'ils veulent devenir Dieu. Et ça, c'est un mensonge du diable. Donc, pour nous qui sommes chrétiens, qui connaissons la vérité, l'effet de cette musique est corruptrice sur l'esprit. Comment déformer la mélodie? Par une répétition incessante, ou une musique qui n'a aucune direction, qui est vague, par un manque de résolution, qui n'a ni début ni des fins. Toutes ces techniques-là sont un peu retrouvées dans la musique du Nouvel Âge. Je cite un musicien du Nouvel Âge. C'est de la musique qui est basée sur l'harmonie et la consonance, plutôt que sur la dissonance et les percussions rythmiques. La meilleure musique du Nouvel Âge peut être utilisée comme une forme de technologie psycho-spirituelle. Cela pourvoit, comme Lee Underwood décrit, une nourriture émotionnelle, psychologique et spirituelle. Ça offre de la paix, de la joie, de la félicité et une opportunité pour nous tous de redécouvrir en nous-mêmes notre plus haute nature. Alors, je vais vous donner un exemple de musique Nouvel Âge, puisque c'est beaucoup répandu, et j'aimerais que vous soyez certains de qu'est-ce que je veux dire exactement par une musique Nouvel Âge. J'aimerais que vous remarquiez, la les notes descendantes. Remarquez-les bien. Remarquez aussi le bruit de l'eau. Cette petite section descendante va se retrouver sur toute surtout le premier bord de cette cassette New Age. Donc, quand je veux dire une répétition incessante, vous avez un exemple parfait devant vous. Aussi, vous remarquez, le reste n'a pas de direction. C'est un peu comme on se sent flotté dans l'air. Et ça, c'est une déviation de la mélodie, parce que ce n'est pas une mélodie, dans un sens. Je vais l'avancer un peu et vous faire écouter un peu. Encore, vous avez encore le même patron rythmique, je veux dire, mélodique, qui dans l'arrière-plan. Et vous avez toujours cet esprit vague qui règne. Là, vous entendez aussi les oiseaux qui chantent. La nature. Je vais vous faire jouer un autre extrait d'une autre pièce de musique Nouvel Âge pour que vous ayez une idée que ce n'est pas juste une répétition incessante. Il n'y a pas nécessairement une phrase de mélodie qui va se répéter sans cesse. Donc, vous pourrez écouter cela. Aussi beaucoup de sons naturels dans ces genres de musique-là, parce qu'ils veulent vraiment mettre l'emphase sur la nature. Mais il n'y a pas que la musique appelée « Nouvel Âge » qui est corrompue au niveau de la mélodie. Il y a bien des compositeurs contemporains qui ne veulent pas nécessairement écrire du Nouvel Âge, mais qui veulent être libres de toute règle, de tout standard musical, et ils veulent écrire ce qu'on appelle free music, de la musique libre, pour ne pas être contraint. Et souvent, c'est la musique de tels compositeurs est considérée Nouvel Âge, puisqu'ils évitent toute contrainte, tout comme ceux qui écrivent de la musique Nouvel Âge. Le prochain exemple que je vais vous faire écouter, je ne sais pas si c'est une musique Nouvel Âge. Je pense que ça en est, mais si ça n'en est pas, les caractéristiques sont les mêmes. Elle commence de la même manière et elle est vraiment caractérisée par la répétition. Voici. On remarque qu'au début, il n'y avait pas de début. Maintenant, la musique est rentrée dans une phase qui va se répéter tout au long. Une répétition sans variation, c'est une déviation de la mélodie. Je vais vous faire écouter la même musique, mais 5 minutes plus loin, ou peut-être plutôt 3 minutes ou 4 minutes plus loin, et vous allez voir, c'est exactement la même chose. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire par répétition. Cette musique, je l'ai prise de Gibeck. On s'en servait l'été dernier pour un an Gibeck. Et c'est justement une des musiques qui a augmenté mon fardeau pour les jeunes dans cette organisation. Parce qu'ils ne pouvaient pas reconnaître, ils ne connaissaient pas. Pourquoi? Ils ne savaient pas pourquoi ça serait mal et pourquoi ça serait de la musique nouvel âge. Alors, la corruption de la mélodie, il y en a tellement autour de nous. Ça commence à être de plus en plus répandu. Les gens sont fatigués un peu du rock, alors ils vont se tourner vers une spiritualité déchue complètement. Et ils vont se tourner vers une musique relaxante. Ils vont partir dans les voyages astraux à travers la musique. Il faut faire attention à ce genre de musique. Avant la prochaine section, j'aimerais quand même vous rappeler ce qu'est une belle mélodie. Alors, j'aimerais que vous écoutiez ce petit extrait et remarquez bien qu'on avait dit qu'il fallait qu'elle soit balancée. Vous remarquez que cet extrait de belle musique va être forte, moins forte, qu'elle va être va avoir une unité, mais aussi de la variété. C'est un extrait pris d'une musique de Telemann. Alors, deuxièmement, la corruption de l'harmonie. La corruption de l'harmonie, c'est-à-dire la déviation des règles d'accord, est présente surtout dans le classique moderne. L'effet est une sorte de corruption de l'âme ou de l'intelligence. En effet, cette musique n'a pas de sens, le chaos règne. Puisque les compositeurs de ce nouveau genre de classique ne veulent pas suivre les règles d'accord, il y a forte dissonance. Ce genre de musique suit la philosophie qui s'est déclarée contre ce qui est naturel. Cette philosophie a beaucoup grandi vers la fin de la 19e siècle et au début de la 20e, et se révèle aussi dans les autres arts, comme dans la peinture par exemple. C'est vers ce moment que le surréalisme est né. La philosophie de tel peintre était de déformer la nature afin de la recréer. Inclus dans cette philosophie est l'idée de la libération de toute contrainte, que l'artiste est libre de faire n'importe quoi sans se soumettre à aucune contrainte. Cette rébellion contre les standards établis n'était qu'une expression d'une rébellion contre le Dieu des absolus de la Bible. Nous savons que la vraie liberté est toujours établie par une forme établie de principe, la vérité. Sans ligne directrice, la liberté n'existe pas. Voici un exemple de musique dont l'harmonie est corrompue. Je tiens par exemple à m'excuser auprès de mon éditoire de la qualité de ce prochain extrait de cette classique moderne. Peut-être une parenthèse que j'aimerais faire. Quand je dis classique moderne, je réfère à classique moderne qui m'a écrit. Je ne dis pas qu'on ne peut pas écrire une nouvelle musique. Non, Dieu est un Dieu créateur, il nous a créés dans son image, et nous sommes des êtres un peu créateurs. Il faut qu'on utilise notre imagination, et il est bien de composer de nouvelles cantiques, de composer de nouvelles pièces, de composer de nouveaux morceaux de musique. Oui, et c'est bon. Et d'ailleurs, il y a plusieurs maisons de production qui en produisent des nouvelles. Donc, je n'ai rien contre la musique nouvelle. Mais la musique nouvelle doit être bien écrite et bien interprétée et suivre les règles musicales. Donc, je ne veux pas me faire mal comprendre par mon auditoire que je suis contre toute musique nouvelle. En général, le vieux classique est bien écrit, pas tous, et le nouveau est moins bien écrit, mais ça ne veut pas dire qu'un chrétien peut écrire une belle musique qui n'a jamais été entendue auparavant. Troisièmement, l'homme ne s'est pas satisfait de corrompre la mélodie et l'harmonie, le rythme y est passé aussi, et probablement le plus. Ce phénomène est remarquable surtout dans le rock, dans le rock'n'roll et dans la plupart des styles modernes. Le rock, le jazz, la musique pop, le rap, le disco, etc., tout ce qu'on veut. L'effet de cette corruption est sur le physique, sur le corps, et donc un effet charnel, sensuel, voire même sexuel. Bien sûr, si j'étais le seul qui le dirait, je vous dirais, ne me croyez pas. C'est pourquoi je vais vous lire plusieurs citations de gens divers, allant de chanteurs de jazz ou de rock eux-mêmes, à des docteurs, à des musiciens, à des écrivains, etc. Pour entendre ce que ces personnes ont à dire sur la musique rock ou d'autres genres de musique similaires,